Merci.
Merci beaucoup, Gaëlle. C'est intéressant comment vous finissez parce qu'on pourrait faire la même description du séminaire de Lacan, hein, qui n'est pas si facile à lire et qui nécessite justement qu'on en discute entre nous, qu'on échange
Oui.
entre nous. Et un lecteur seul serait peut-être bien embarrassé de ce séminaire. Donc, c'est notre bien
Oui.
commun à nous les
C'est
lacaniens. J'ai trouvé,
Oui.
j'espère qu'il y aura quelques questions, je vous en pose une un peu rapidement, à propos de la... Finalement, il y a une façon de proposer une typologie des objets de jouissance que je trouve assez intéressante, sachant
Oui.
que ces objets, suivant la manière dont on peut en jouir, en excluant ou en excluant pas l'autre d'une jouissance de l'objet, évidemment, ça change tout. J'étais assez surprise récemment, d'ailleurs, à propos de l'absolu, de la propriété privée et de ce rapport avec la maître-esclave. J'étais assez surprise d'apprendre que quand il a été décidé la fin de l'esclavagisme, on a pensé à indemniser les propriétaires. Ça, j'ai trouvé ça. En fait, je ne savais pas, mais pas du tout à indemniser les esclaves. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé que les esclaves étaient à indemniser, mais on a indemnisé les propriétaires. Je trouve que c'est quand même ça démontre bien cette idée de la privatisation de la jouissance et du fait qu'elle exclut complètement, a priori, l'autre de sa jouissance, enfin, d'une possibilité de jouissance. Enfin, je ne sais pas si vous diriez comme ça.
Si, si, si ça va, ça résonne tout à fait avec ce que j'essaie de dire, oui, absolument, je suis complètement d'accord. Oui. Si je reviens juste sur le parallèle entre esclavage et propriété privée, c'est assez discuté, mais vous avez des anthropologues qui ont travaillé là-dessus, sur ce qui s'est passé bon, essentiellement dans le droit romain, mais aussi en Mésopotamie. Et c'est David Graeber, un anthropologue assez connu aujourd'hui, qui a essayé de formaliser ça en proposant, en disant, voilà, finalement, la propriété privée, ça n'est rien d'autre que prendre les objets qui m'entourent pour mes esclaves. Voilà.
Ah oui.
Mais si vous regardez, par exemple, la question du détricotage du droit du travail aujourd'hui, auquel nous nous livrons hein, depuis une quarantaine d'années, et de la manière dont les économistes néoclassiques comprennent le travail, ils comprennent le travail comme une marchandise privée. Donc on parle par exemple du marché du travail. Voilà. Alors, cette expression, le marché du travail, qui est devenue qui est universelle aujourd'hui, tous les journalistes parlent du marché du travail, les tensions sur le marché du travail, etc. En fait, elle véhicule implicitement l'idée que le travail est une marchandise privée. Mais alors, qu'est-ce qui est une marchandise privée? L'humain qui travaille, sa force de travail en tant qu'elle est séparée de cet humain, mais qu'est-ce que c'est que cette force de travail? Oui. Et donc, en réalité, la vérité de la métaphore du marché du travail, c'est l'esclavage. Parce que la seule situation dans laquelle effectivement le travailleur est une marchandise privée, c'est quand il est un esclave. Et la destruction progressive du droit du travail à laquelle nous vivons aujourd'hui et son ubérisation accélérée ces derniers temps nous envoie très très vite dans cette direction-là. C'est-à-dire en fait le démantèlement de toutes les solidarités institutionnalisées qui permettaient précisément aux salariés, aux travailleurs de ne pas être un esclave. Et qui aujourd'hui le livre de plus en plus, disons, au diktat de son propriétaire, qui est son employeur.
Oui, alors ça ouvre évidemment la question des inégalités, c'est-à-dire le fait de bénéficier ou pas d'un certain nombre d'objets de jouissance. Et ça me faisait penser que du coup, ça crée une forme de lien entre les personnes, hein, les inégalités, mais une forme de lien de rivalité, de concurrence. D'ailleurs, vous l'avez bien dit pour ces objets, la consommation rivale, finalement, il y a une concurrence pour l'objet. Et donc, il y a quand même, ça crée un lien entre les individus, entre les personnes, mais un lien qui est uniquement de concurrence. Enfin, c'est ça qui me vient. Donc, je comprends que pour refaire un autre type de lien plus coopératif, alors, on imagine des communautés, enfin, on imagine des communs, c'est-à-dire des
oui.
endroits où la concurrence, disons, est au moins moins vive. Moins...
Tout à fait, oui.
C'est la seule modalité du lien.
Oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. Donc des expériences de communs, il y en a beaucoup. Je peux vous donner un exemple très concret que j'ai visité. C'est à Johannesburg, en Afrique du Sud. presque 30 ans après la fin de l'apartheid, vous avez toujours des quartiers noirs, des quartiers blancs et des quartiers métissés, colors en anglais, et qui ne se mélangent absolument pas, avec de temps en temps une violence très très forte lorsque ça se frotte sur les bords de ces quartiers. Et donc la communauté de Johannesburg, avec la complicité de l'AFD, l'Agence française de développement pour laquelle j'ai travaillé, essaye de construire des zones géographiques communes à ces différents quartiers où blancs et noirs et métis pourraient cohabiter pacifiquement. Alors, par exemple, des terrains de sport, des jardins, alors qu'on appellerait des jardins publics, qui en fait sont des communs fondamentalement. Mais ce dont ils font l'expérience, c'est qu'il ne suffit pas de décréter que ce jardin, mesdames et messieurs, est votre commun pour qu'il devienne le commun des quartiers. C'est-à-dire qu'il y a bien un acte, en fait, qui est un acte fondamentalement politique, de chacune des deux ou des trois communautés, de décider, oui, ce jardin sera notre commun, nous allons le partager. Et ce qui est en jeu derrière ça, je crois, c'est vraiment cette expérience, alors je dirais ça comme 18, spirituelle très profonde, qui est, est-ce que je crois que l'altérité, alors je suis noir ou le blanc qui habite à côté, c'est définitivement une menace irréductible, ou bien est-ce que ça peut être, sous certaines conditions, une promesse heureuse. C'est-à-dire je peux accepter de partager ce jardin avec eux, bien qu'il soit blanc, ou bien qu'il soit noir si je suis blanc, etc. Parce que quelque chose de l'ordre de la jouissance est possible, une jouissance partagée est possible. Ouais. Donc là, il y a un enjeu colossal.
Oui, parce que c'est
peut-être. Peut-être, oui.
On se dit que. Alors, vous parlez de post-libéralisme.
Oui.
J'aimerais quand même vous poser la question par rapport au capitalisme. C'est-à-dire, nous, dans notre champ, on a plutôt l'habitude de parler du capitalisme. Alors, en exemple, le néolibéralisme ou le post-libéralisme serait différent du capitalisme?
Oui, alors, c'est une très bonne question. La manière dont je comprends le libéralisme, le grand libéralisme classique du 18e, et puis du début du 19e, aussi bien Benjamin Constant que Kant, disons pour donner un exemple français et allemand, c'est trois choses fondamentalement. C'est la place, le lieu du pouvoir est vide, on a coupé la tête du roi. Donc le corps du roi, c'était le lieu de symbolisation du lien social, et la nation, par exemple française, en regardant le corps du roi, se voyait elle-même. C'est le corps du roi qui symbolisait l'unité des Français. Donc le roi siégeait sur le lieu du pouvoir, le lieu absolu du pouvoir. On lui a coupé la tête, et donc le lieu du pouvoir est vide, désormais. Ce qui ouvre à la délibération démocratique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir désormais, pour l'éternité, discuter entre nous, et quelquefois se bagarrer, sur la manière dont nous allons occuper ce lieu vide. Et donc créer des institutions du vivre ensemble, qu'on appellera une monarchie constitutionnelle, la Troisième République, peu importe. Mais voilà. Premier grand point, le lieu du pouvoir est vide. Deuxième grand point, c'est le droit est l'instrument privilégié pour construire, disons, la représentation symbolique du lien social qui va occuper ce lieu vide. Droit qui est chargé de protéger en particulier le citoyen et les citoyennes contre la tyrannie, c'est-à-dire contre la tentative d'occuper indûment le lieu du pouvoir, vide. Voilà. Et troisièmement, la propriété privée. Ça, c'est quand même indéniable dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà. Et donc, la propriété privée vient dire, au fond, le lieu du pouvoir vide, ça c'est une ouverture, mais ça ne fonde rien du tout. Le droit, c'est un instrument pour l'occuper, mais ça ne donne pas de chair. Ce qui donne de la chair à la société, en tout cas c'est ça l'utopie du 18e, c'est la propriété privée. Le post-libéralisme oublie les deux premiers aspects et absolutise le troisième. Je crois qu'on peut tout verser dans le champ de la propriété privée et oublier et assujettir le droit à la privatisation du monde et installer n'importe quelle idole sur la place libre du pouvoir. Par exemple, aujourd'hui, ce serait les marchés financiers. Quand vous écoutez la manière dont on parle des marchés financiers, pour moi, comme économiste et comme jésuite, c'est vraiment le paganisme romain dans sa splendeur. En fait, personne ne sait comment vont réagir les marchés financiers, eux-mêmes ne le savent pas d'ailleurs. J'ai travaillé sur les marchés financiers avant d'être jésuite. J'étais mathématicien dans les salles de marché. Je faisais des maths pour les traders. Donc, je vois très bien comment ça fonctionne. En réalité, c'est juste des effets grégaires, mimétiques, de traders qui essaient de gagner de l'argent à toute vitesse et qui essaient de flairer le sens du vent en fonction de ce que leurs petits camarades de jeu pensent. Alors, je donne un exemple très très simple. Supposez que demain, la présentatrice préférée des Français au journal de 20h, je ne sais pas qui c'est, parce que je ne regarde jamais le journal de 20h, Parisienne Mentale, vous annonce, mesdames et messieurs, l'air très, très triste et très sérieux, mesdames et messieurs, l'euro va s'effondrer demain matin. Pourquoi ? Parce qu'on a vu des taches à la surface du soleil. Alors, il y a des taches à la surface du soleil, ça c'est vrai, c'est des phénomènes magnétiques à la surface de l'astre. Vous savez aussi qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les taches solaires et le cours de l'euro. Et supposez que vous soyez trader et que vous ayez quelques millions d'euros dans le portefeuille que vous gérez. Vous vous dites, en allant vous coucher, la brave, je ne sais pas comment elle s'appelle, aurait mieux fait de se taire. Évidemment, je sais bien qu'il n'y a pas de relation entre les taches solaires et l'euro. Mais vous avez une seconde arrière-pensée, enfin, dire second thought en anglais. Vous y réfléchissez une seconde fois et vous dites, mais à la réflexion, moi je suis éduqué, mais il y a plein de gens complètement stupides qui vont croire ce qui a été dit. Et donc, ils vont vendre leurs euros demain en espérant ne pas perdre trop d'argent parce qu'ils croient que l'euro va s'effondrer. Donc, qu'est-ce que j'ai de moins stupide à faire moi-même demain matin à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne ? Je vais vendre mes euros. Tout en me disant, ils sont bien idiots de croire la prophétie de la présentatrice télé. Et ce faisant, je vais moi-même contribuer à la panique sur les marchés financiers qui va provoquer l'effondrement de l'euro. Donc, ça, c'est une prophétie autoréalisatrice. Oui. Alors, existe-t-il des prophéties autoréalisatrices sur les marchés financiers ? La réponse est tous les jours.
Mmh. Ma expérience. Oui, ça pose la question du savoir, parce que du coup, le savoir, c'est plus du savoir en fait, c'est juste le mimétisme.
Oui, c'est même pas le moyen d'anticiper l'opinion générale de mes camarades de jeu. Oui. Et donc, un exemple très concret de ceci, hein. Comment vous dites ? Pardon ?
Oui, non, non, c'est une anticipation de ce que vont faire les autres.
Exactement. Exactement. Donc, c'est complètement spéculaire. Un exemple, en 2002, George Bush visite le Japon. Le Japon est dans la déflation. Mais après sa visite avec le Premier ministre, il fait une conférence de presse. Comme il a un lexique très limité, il confond déflation et dévaluation. Et dans la conférence de presse, il dit, mesdames et messieurs, le Japon connaît une dévaluation terrible. Et donc, moi, j'étais sur les marchés à cette époque-là. Et tous les traders se disent, voilà, ils nous annoncent la dévaluation du yen, se mettent à vendre du yen massivement pour ne pas perdre d'argent. Du coup, le cours du yen baisse de 1, 2, 3% en quelques heures. Le Premier ministre japonais est obligé de faire une contre-conférence de presse pour expliquer, mais non, pas du tout, il est hors de question de dévaluer le yen. C'est juste que George Bush ne sait pas lire les fiches qu'on lui a écrites de son cabinet. En fait, le Japon est dans la déflation. Alors, les traders rassérénés se disent, ah oui, mais ça, on le sait depuis longtemps, rachètent le yen qu'ils avaient vendu et le yen reprend 3% en quelques heures. Donc, en fait, il a fait le yo-yo en une journée pour des raisons complètement, de grégarisme mythique. Mm-hmm. Pardon, de mimétique, vous voyez, de mimétisme grégaire. Quoi. Bon. Donc les marchés financiers, je veux dire, attribuer une volonté comme si les marchés financiers étaient un sujet, ça n'a juste aucun sens. Et quand vous écoutez la rhétorique autour des marchés financiers, on leur donne les attributs de Dieu dans la théologie classique. Ils sont omniscients, omnipotents et bienveillants pour nous tous. Et donc, par exemple, vous avez peut-être repéré que là, je suis engagé dans une bagarre dans le débat public français autour de l'annulation des dettes publiques au bilan de la BCE. Bon. La réponse fondamentale qu'on me fait, mais c'est Karel, as-tu pensé à la colère des marchés ?
Ah bah oui.
Et donc là, on est en plein paganisme, c'est-à-dire la colère des dieux. Quoi. Les dieux vont être en colère. Bon. Donc en fait, le post-libéralisme a installé par exemple les marchés financiers comme figurines de la trique chargées d'occuper le lieu vide du pouvoir et détourne le droit de sa fonction pour privatiser le monde. Ça, c'est le post-libéralisme. Alors, le capitalisme, qu'est-ce qu'il a à voir dans cette affaire ? Le capitalisme... En fait, la difficulté que j'ai avec cette autre catégorie-là, c'est qu'il y en a plein de définitions possibles. Et donc, d'une certaine manière, si vous voulez, la Suède aujourd'hui, ou la Suède, disons, il y a 15 ans, était capitaliste, certainement, mais d'une forme de capitalisme qui n'a absolument rien à voir avec celle du Japon ou avec celle du Texas. Le capitalisme français d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus financiarisé qu'il y a une cinquantaine d'années, n'a plus grand-chose à voir avec le capitalisme de la France lorsque Mitterrand arrive au pouvoir en 80, Donc du coup, vous voyez, je résiste un tout petit peu. Alors, après, si vous me dites le capitalisme, c'est la tentation ou la tentative d'accumuler. Alors, en général, on dit d'accumuler du capital. Vous savez, c'est la grande phrase de Marx. Hein. Accumuler, accumuler, c'est la loi et les prophètes. Bon, c'est le début du manifeste du Parti communiste en 1848. Alors, si vous me dites le capitalisme, c'est la tentative d'accumuler quantité infinie de capital financier, donc du capital inscrit au bilan d'un certain nombre d'entreprises, industrielles ou bancaires, alors je vous répondrai oui, ça c'est un visage possible du capitalisme financiarisé contemporain, qui est aussi un vecteur extraordinaire de destruction écologique, parce que vous n'avez aucune limite à l'accumulation du capital financier, puisque ce sont des pures opérations d'écriture sur les bilans. Donc, tant que vous êtes vivant, vous pouvez encore l'accroître. Donc, vous pouvez céder à la pulsion de cette pulsion d'accumulation ad libitum ou ad nauseam, comme vous voulez. Parce que l'accumulation du capital physique, ça, c'est impossible. Nous n'avons qu'une seule planète, elle est finie et on ne peut pas. Donc, ce qui rend possible cette folie de croire qu'on peut accumuler indéfiniment, c'est parce qu'on n'accumule pas du tout du capital physique, on n'accumule plus du capital financier. Dans ce cas-là, je vous dirais oui. Mais demain, pardon, allez-y.
Oui, je vous arrête, excusez-moi, parce que vous avez trois questions. Ah, il y a trois intervenants qui veulent vous poser des questions, et comme je sais que vous vouliez finir un peu.
Oui, tout à fait.
Alors, il me semble que Maria Velissaropoulos, j'espère que je prononce bien, était la première. Si on peut lui donner le micro, on va vous donner le micro à toutes les trois. Et puis après, il y avait Anis Tariki et Sol Aparicio. Alors, Maria d'abord, elle est là. C'est moi qui donne le micro ?
Non, non, c'est moi, mais je n'arrive pas à lui donner.
Ah bon, d'accord. Alors, si tu peux peut-être donner à Sol ou à Annie en attendant, je ne sais pas.
Essayez sur Sol. Ouais.
Alors, Sol.
Attends, je ne sais pas pourquoi la fonction ne marche pas, évidemment. Ça y est, Sol a la
parole. Alors, Sol, vous avez la parole.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup, notre invité, pour son intervention extrêmement riche et passionnante, je trouve. Je suis frappée par la place que vous accordez au droit. Je me demandais il me semble que c'est le point de liaison, si je puis dire, le pont entre l'économie et la théologie.
Oui,
on peut se dire, mais l'économie et la théologie, qu'est-ce que ça peut avoir à faire? Et il y a ce terrain commun qui est le droit, tel que vous présentez les choses. Et alors, j'étais, je vous disais, frappée par cette place que vous accordez au droit. Et par rapport à, pour reprendre la référence au post-libéralisme, donc vous appelez notre époque plutôt une époque de post-libéralisme, et vous l'avez défini à un moment donné comme ce moment où le but, la visée, c'est la privatisation du monde. Hein? Or, vous aviez parlé de privatisation déjà, en tout cas du problème de la propriété privée au début de votre intervention, en l'attribuant finalement, en attribuant l'origine, si j'ai bien suivi, parce que je suis très ignorante en ces matières, en la situant au XIIIe siècle. Ça commence avec Grégoire VII. Et donc, d'une certaine façon, je me disais que vous avez dessiné une ligne qui va de Grégoire VII à nous. Hein, et est-ce que vous n'êtes pas, d'une certaine manière, en train de nous dire que cette privatisation du monde effarante que nous vivons n'était pas déjà en quelque sorte inscrite dans le droit canonique dès le XIIIe? Et est-ce que, dire que c'était déjà inscrit, c'est en quelque sorte considérer que ça n'aurait pas pu être autrement, ça ne pouvait nous mener nulle part d'autre que là où ça nous a mené. Voilà un peu ma question que je me pose.
Je vais peut-être proposer à Maria, parce que là, voilà, il y a d'autres mains qui se sont levées, donc à Maria Velissaropoulos de poser sa question, qu'on ait au moins deux questions.
Oui, est-ce que mon micro est ouvert?
Oui, on
vous entend très bien, merci beaucoup.
D'accord, je voulais poser une question qui m'a toujours embrouillée. c'était quel rapport y a-t-il justement entre les protestants et le capitalisme?
Alors, on prend une troisième question, Anis Tariki, et ensuite, il y aura Marc Strauss et Karim Barkati, mais peut-être, Gaël, on s'arrête à trois questions, et puis on reprend deux autres questions après, si ça vous convient.
D'accord, très bien.
Alors, moi, Anis Tariki, c'est à vous.
Merci aussi, j'ai trouvé votre exposé tout à fait passionnant. J'ai bien retenu ce que je ne m'étais pas formulé, c'est-à-dire ce mouvement de généralisation de la privatisation qui conduit vers une destruction du lien social et vers ce que vous appelez le tribal. Je trouve que cet axe de développement est très intéressant. Mais moi, ça me pose une grande question. Je me dis, mais que faites-vous du rôle des démocraties qui existent encore, quand même? Parce qu'elles sont menacées dans le monde, c'est vrai, mais à mes yeux, il y en a encore. Et quand vous parlez du lieu du pouvoir qui est vide, j'en suis étonnée pour ma part, parce que je ne partage pas cette analyse. Je pense que malgré les remous et les atteintes aux démocraties, il subsiste encore une fonction symbolique du pouvoir, qui est une fonction de régulation du lien social, du vivre ensemble, qui garantit quelque chose de la place de chacun. Moi j'aime beaucoup la référence à Pierre Legendre, cet ouvrage qu'il a écrit, Les enfants du texte, et qu'il a sous-titré De la fonction parentale de l'État, qui est un pavé absolument magnifique, où il montre comment ce plus haut niveau de l'institué est une garantie, malgré ses défaillances, je veux dire, de ce lien social. Donc je me disais, jamais vous n'avez évoqué dans votre développement la place et la fonction des démocraties.
Alors à vous, Gaël.
C'est bon, d'accord, j'y vais. Merci beaucoup.
Après, il y aura un dernier
round. Merci beaucoup pour ces questions qui sont très intéressantes. Sur la première, oui, effectivement, c'est bien le droit qui fait le lien entre l'économie et la théologie. Comme vous le savez, au Moyen-Âge, l'organisation des universités est telle que la théologie est supposée tout inclure. La théologie coiffe tout. Et elle a comme sous-discipline le droit, qui à l'époque est d'abord du droit canonique, puis petit à petit deviendra du droit civil. Et au fond, ça n'est qu'au XVIIIe siècle que l'économie commence à s'émanciper comme discipline, comme science, qui prétendrait avoir ses propres règles de fonctionnement, indépendamment du droit. Et ça n'est en réalité que dans le courant du XXe, plutôt dans la deuxième moitié du XXe, dans la plupart des pays, que dans les universités, on va séparer l'enseignement de l'économie de l'enseignement du droit. Donc en fait, vous voyez, la matrice, c'est bien la théologie, et de cette matrice sort le droit, et du droit, petit à petit, s'est émancipé l'économie. Et aujourd'hui, alors moi, ça me semble très important de rappeler ça, parce que en réalité, quand je discute avec des juristes un petit peu éclairés, comme économiste, je me rends compte que en réalité, la pratique économique, c'est essentiellement du droit, en vérité. Alors que si vous écoutez mes collègues économistes qui sont universitaires, ils ne parlent quasiment jamais de droit. Donc l'économie est devenue une espèce de discipline mathématisée, autonome, qui ressemble à de la physique sociale, où on fait des modèles, ce que je fais des modèles toute ma vie, mais où on ne vous parle pas du tout de l'instance du droit, voilà, qui est devenu complètement dissimulé, caché. Voilà. Et je pense que c'est très important de ressusciter ça et de faire entendre que l'économie essentiellement dialogue avec le droit en permanence. Voilà. Et du coup, ça permet aussi de faire ressurgir l'impensé de tout ça, à mon avis, qui est la théologie. Ça ne veut pas dire que il faut catholiciser tout ça, pas du tout, mais ça veut dire qu'il faut, si on fait la généalogie des catégories d'économie et du droit avec lesquelles nous travaillons, on est obligé d'en passer par la question théologique. Alors, après, justement, parmi ces travaux de discernement généalogique, il y a la question de la propriété privée et son lien avec Grégoire VII. Alors, d'abord, la réforme grégorienne, peut-être j'ai dit 13e tout à l'heure, j'ai dit ma langue à fourcher, c'est la fin du 11e, hein, ça dure une vingtaine d'années, hein, c'est entre 1075 et 1095, avec beaucoup de guerres, parce que l'Église s'est construite dans le sang, sur la guerre, en particulier contre l'empereur à l'époque, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc, c'est la fin du XIe, et donc c'est une réécriture par les théologiens, juristes et glossateurs grégoriens du droit romain privé, de la res privata, la chose privée. C'est pour ça, par exemple, que Pierre Legendre, que vous citiez tout à l'heure, la troisième personne, parle du monument romano-canoniste, parce qu'au fond, le droit canonique rédigé par les théologiens, les glossateurs du XIe, XIIe, XIIIe siècle, c'est une réécriture du droit romain. Voilà. Et donc, notre héritage juridique, en fait, c'est ce monument romano-canoniste que Pierre Legendre appelle aussi la deuxième Bible de l'Occident, tellement il est structurant pour l'ensemble de nos sociétés aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire que nous étions condamnés à partir du moment où les glossateurs grégoriens ont ressuscité la catégorie du privé à en venir au post-libéralisme? Moi, je résisterais à dire ça. C'est-à-dire, la propriété privée telle qu'elle est comprise par ces juristes-là, comme d'ailleurs par les juristes romains, c'est quelque chose de complètement subalterne. Dans le droit romain, là, il y a une hiérarchie des biens et la chose la plus haute, la plus noble, c'est précisément la chose commune, la res communis, donc c'est le commun. La chose la plus vile, c'est la res privata, la chose privée. Et les glossateurs grégoriens et les théologiens médiévaux ne conservent pas forcément complètement cette hiérarchie-là, mais n'absolutisent absolument pas les biens privés, absolument pas. Et alors après, si vous voulez, on peut rentrer dans le débat théologique, mais chez saint Thomas, vous n'avez absolument pas d'absolutisation de la chose privée, contrairement à ce qu'un certain nombre d'idéologues aujourd'hui voudraient faire dire à saint Thomas. Mais vous ne trouvez absolument pas ça dans la somme théologique, au contraire. Le droit naturel, pour Thomas, qui s'impose sur le droit positif, le droit naturel, donc, c'est le droit de la nature, donc de l'essence des choses, qui ne s'identifie pas avec le droit tel qu'on l'a écrit, en particulier le droit canonique. Le droit naturel, pour saint Thomas, a comme visée ultime les choses communes, la res communis, pas du tout la res privée. Voilà. Donc, est-ce qu'on était obligé d'en venir à cette tentative folle d'absolutisation de la chose privée? C'est un des possibles inscrits dans la réforme grégorienne. Je résisterais à y voir un déterminisme et à dire où finalement on était condamné à cette folie-là. Surtout parce que j'espère bien qu'on peut en sortir. Donc voilà, moi je dirais ça. Les protestants et le capitalisme. Alors vous savez qu'il y a cette grande thèse de Max Weber hein, dans l'esprit du capitalisme, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui est au fond les puritains, surtout anglo-saxons au XVIIe siècle, auraient construit l'éthos protestant de l'épargne et de l'austérité de manière à pouvoir réinvestir. Et donc, si vous ne dépensez pas immédiatement ce que vous avez gagné, mais que vous le réinvestissez, vous commencez à accumuler. Et ce serait ça la racine du capitalisme. Alors, ça, c'est la grande thèse. En fait, ce n'est même pas vraiment la thèse de Weber, c'est la thèse du Weberisme vulgarisé qu'on enseigne un peu partout. En fait, le Weber ne dit pas ça, ne prétend pas ça. Il dit, voilà, je constate qu'un certain nombre de puritains du XVIIe ont favorisé ce type d'éthique, d'éthos, mais ce n'est pas l'unique source du capitalisme. Et vous avez des textes de Weber qui montrent que du côté catholique, vous avez exactement la même chose. Non, vous avez tout un travail d'historien, parmi lesquels Sylvain Piron et d'autres, qui montrent que vous avez notamment dans la scolastique catholique, donc au XVIe siècle, en particulier dans l'école de Salamanque, en Espagne, des penseurs qui vont tout faire dans le sens de construire les fondements de ce qui pourra donner lieu ensuite au capitalisme. On commence à l'élaborer au XVIIIe siècle. Sachant qu'en plus, si on veut être complètement, j'ai vraiment pas le temps d'entrer dans tout ça, mais sachant qu'en plus, d'un point de vue historique toujours, le proto-capitalisme occidental, c'est même pas le 18e, c'est le 13e, en fait, c'est le 12e, 13e siècle. Donc c'est l'époque de Saint François, de Saint Thomas, et en fait de la naissance des premières grosses villes reliées entre elles par des routes et parmi lesquelles circulent des marchands. Donc ça, c'est la sortie de la première féodalité, qui était essentiellement un monde de la campagne, centré autour du monastère, puisque après l'effondrement de l'Empire romain au 6e siècle, l'Europe envahie par les tribus, et donc ça c'est une tribalisation de l'Europe déjà à l'époque, les tribus franques sombrent dans un certain chaos où les seules institutions qui tiennent encore debout, ce sont les monastères. C'est à partir des monastères qu'on a reconstruit l'Europe entre le 6e et le 11e siècle. Et donc à partir du 12e, 13e, vous avez cette sortie du premier monde féodal, construction des grandes villes, autonomisation de la ville par rapport au monde de la campagne. Bon, et là, vous avez un premier proto-capitalisme autour du moulin à eau et d'un certain nombre d'inventions techniques agricoles qui permettent d'augmenter très fortement les rendements agricoles. Donc, si vous situez le proto-capitalisme là, c'est évidemment bien antérieur à la réforme protestante. Ce n'est pas pour dire que le protestantisme n'a rien à voir avec le capitalisme. C'est pour nuancer considérablement la vulgate de la thèse généralement attribuée à Max Weber. Voilà, j'espère que ça répond à la question. La démocratie dans cette affaire, j'en ai pas parlé, mais évidemment, elle est omniprésente dans ce que j'ai essayé de dire. Si vous voulez, je vais venir à Pierre Legendre, mais vous pouvez penser à un autre auteur qui est Claude Lefort. Dans la pensée de Lefort, la démocratie, c'est précisément l'institutionnalisation du fait que le lieu du pouvoir est vide. Si vous sortez du mythe d'un pouvoir politique de droit divin, si vous ne croyez plus que le roi est votre roi parce que Dieu l'a voulu tel, mais que vous pouvez discuter la légitimité du roi, et que vous voulez instituer ça, donc écrire les règles de ce droit que vous avez à discuter la légitimité du roi, vous entrez en fait dans un début de débat démocratique, en vérité. Parce que vous avez fait l'expérience que le lieu du pouvoir est vide, et que donc on peut en parler, et qu'on peut mettre ce qu'on veut à la place. Mmh. Voilà. Si au contraire vous pensez que le roi qui siège sur le trône est par excellence la figure absolue du lien social et la figure légitime du pouvoir, absolument, vous ne pouvez plus en parler, il n'y a pas de débat possible. Ou alors vous êtes régicide, mais le roi sera fondé à vous tuer dans ce cas-là. Voilà, moi je dirais ça. Et donc, de mon point de vue, c'est pour ça que le libéralisme est fondamentalement démocratique, et c'est pour ça que le post-libéralisme est fondamentalement antidémocratique. Parce que privatiser le monde en mettant, disons, une figure idolâtrique à la place du pouvoir, comme par exemple les marchés financiers, c'est rompre complètement avec l'utopie libérale, l'utopie du 18e, qui est celle des Lumières, fondamentalement. Je ne dis pas que la totalité des Lumières sont libérales. Par exemple, Rousseau, certainement, c'est une figure dans les Lumières françaises très, très originale. Mais Rousseau n'est pas du tout Voltaire. Donc, le libéralisme tel que je l'ai décrit, avec ses trois composantes, le lieu du pouvoir est vide. Le droit est l'instrument de construction de ce que Pierre Legendre appellerait le grand tiers symbolique. Et la propriété privée est la chair qui permet de mettre du lien social dans tout ça. Certainement, rien. Voltaire est complètement là-dedans. Rousseau, beaucoup moins. Donc, je ne dis pas que la totalité des Lumières s'abîme dans ce libéralisme-là. Mais en tout cas, que le post-libéralisme contemporain n'a lui-même plus rien à voir avec ce libéralisme-là. Voilà. Et a fortiori, évidemment, avec d'autres aspects des Lumières comme les Lumières de Rousseau. Voilà. Alors, dans cette affaire Pierre Legendre, eh bien, ça va vous amuser, mais dans ma thèse, il y a donc une quarantaine de pages, peut-être une trentaine, dédiées à Pierre Legendre, pour discuter Legendre, que je trouve très, très, très intéressant et qu'on ferait bien de relire beaucoup plus attentivement aujourd'hui. D'une certaine manière, moi, je crois, Legendre donc attribue une fonction symbolique à la construction de l'État comme étant le tiers absolu qui rend crédible toutes les autres règles que nous pouvons nous donner. Alors, vous connaissez tout ça mieux que moi, mais si je comprends bien la scène inaugurale du miroir chez Lacan, c'est l'idée que ce sont mes parents qui me disent « Oui, oui, cette figure que tu vois dans ce miroir, c'est bien toi. » Parce que comment sinon, à qui puis-je demander de m'authentifier la vérité de ça ? Bon. Alors, Legendre dit, au fond, l'État, c'est cette espèce de gros monument symbolique que nous construisons, de manière à jouer le rôle des parents, de manière à me dire et à nous dire, à chaque fois que nous entrons en relation les uns avec les autres, cette relation est légitime, elle est vraie, parce qu'elle s'inscrit dans un cadre juridique que moi, l'État, j'incarne. Vous me dites si j'ai mal compris Legendre. Voilà. Et Legendre fait un lien très étroit entre ceci et le dogme chrétien de l'incarnation. Et donc, vous trouvez par exemple quelqu'un comme Pierre Musso, qui travaille beaucoup à l'Institut des études avancées de Nantes avec Alain Supiot, qui est l'un des, disons, on pourrait dire, continuateurs, sinon disciples de Pierre Legendre. Pierre Musso et d'autres disent, au fond, il y a eu l'État qui a joué ce rôle d'incarnation. Mais on pourrait en imaginer d'autres. Alors, Pierre Musso considère que l'entreprise, par exemple, c'est un lieu d'incarnation aujourd'hui, qui joue un rôle, ou qui est sommé de jouer un rôle analogue à celui que Pierre Legendre prête à l'État. Je ne crois pas du tout, de mon point de vue, que si vous voulez, ce que dit Musso n'est pas du tout legendrien, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. En tout cas, vous voyez bien que la position de Legendre a quelque chose à voir et à dire et à entendre du côté de la théologie, puisqu'elle s'articule autour du dogme théologique de l'incarnation. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses à redire. La question que je pose, c'est si on revisite le dogme de l'incarnation, non plus au sens où justement il a été compris par une certaine, on pourrait dire, christologie publique, mais cette fois-ci par une christologie du commun, alors ça change tout. Et alors, pour aller très vite, et pas forcément faire de la théologie ici, j'aurais tendance à dire, de mon point de vue, la fonction fondamentale qu'on peut attribuer à l'État, ça n'est pas d'administrer les biens publics, et ça n'est pas d'édicter la loi au sens d'un public qui s'imposerait à tous avec un sens unique et obvi, parce que l'État qui croit ça est un État totalitaire, mais c'est d'instituer du droit avec la fiction que la loi est un public, mais en sachant parfaitement qu'elle est constamment ventriloquée par du commun, c'est-à-dire que la loi est constamment dans un travail de réinterprétation d'elle-même par tout le corps social des gens qui vivent de cette loi, et que le boulot et la tâche de l'État, c'est d'assurer des conditions de possibilité d'émergence des communs. Et donc, par exemple, des conditions de possibilité d'interprétation de la loi, conditions de possibilité de création par des communautés qui s'auto-instituent elles-mêmes, qui s'auto-engendrent, de ressources communes qu'elles ont envie d'administrer ensemble, etc. Vous voyez que ça ouvre à une philosophie politique et en fait une théologie politique de l'État complètement différente.
Voilà. Gaël, je pense à votre sommeil. Il y a encore deux questions. Ça
oui, va allons-y.
Marc Strauss et Karim Marcati, oui, merci.
Oui, bonsoir, vous m'entendez?
On t'entend pas très bien, Marc. Mais vas-y.
Ça passe, là?
Oui, c'est bon, on vous entend. Je vous entends.
Bon, merci d'abord pour cette soirée, pour cet exposé. C'est une question que vous avez déjà un peu abordée dans la discussion sur un point que vous avez évoqué une fois. La place de l'institution police. La police par rapport aux différents modèles dont vous parlez. Il me semble, vous savez comme moi, qu'on parle actuellement, certains parlent actuellement du capitalisme de surveillance. Est-ce qu'entre capitalisme, libéralisme et néolibéralisme, le rôle de la police change?
On va prendre peut-être la question de Karim aussi. Karim, tu as le micro, hein, oui.
Ça marche. Merci, Natacha. Merci beaucoup pour votre intervention. Ma question, elle porte sur les communautés, qui me semble une cheville ouvrière très, très importante des communs, dans le sens où vous avez donné cet exemple à Johannesburg. Ce qui institue le commun, ce n'est pas si facile. Et en particulier, ça ne peut venir, c'est institué et instituable que par des communautés. Donc se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une communauté. On ne peut que présupposer que c'est quelque chose de mouvant, peut-être de pas si facile à définir. On réifie un petit peu là, peut-être facilement. Et il y a aussi la question du coup de la tendance inexorable, je ne sais pas, mais en tout cas contemporaine à l'individualisme, et qui résonne aussi pour nous psychanalystes avec cette ambivalence, disons, du désir et de son éthique qui est forcément entre social et individuel.
Oui, je réponds. Natacha?
Oui, allez-y.
Merci beaucoup pour ces questions. Le capitalisme de surveillance. Alors, c'est une très bonne question. Je vais y répondre peut-être en l'élargissant un tout petit peu. Mon impression, c'est que ce que nous sommes en train de vivre en France en ce moment peut se lire comme le symptôme de la tribalisation de l'État comme issue à l'impossible privatisation du monde. Alors, je prends une position quand je dis ça. Hein. Vous avez tout à fait, je comprendrai tout à fait, vous ne soyez pas d'accord, mais je crois que l'agenda dissimulé, mais à peine, du gouvernement actuel, c'est la privatisation du monde. Et c'est la seule chose dont il ne parle jamais, mais qu'il fait vraiment. Et que c'est impossible. Donc, c'est-à-dire que ça détruit tellement le lien social que vous voyez ce que ça donne, les gilets jaunes, etc. Puis bientôt, ils seront rouges, puis bientôt, ils seront violets. Et la seule réponse possible dans cet agenda-là, c'est la violence policière déchaînée telle qu'on l'observe aujourd'hui. Et donc, une espèce d'alliance entre un projet de privatisation qui assujettit l'État pour que l'État impose ceci. Mais cette alliance-là, elle ne peut se faire que dans la tribalisation, puisque le privé et le public tout seul n'ont pas la ressource pour s'imposer. Et la tribalisation, c'est à la fois c'est celle que promet le Rassemblement national. Et donc, vous avez aujourd'hui Ils ont, comment il faudrait dire ça, une superstructure bureaucratique dont l'incarnation est Emmanuel Macron, pour dire les choses clairement, dont l'agenda est la privatisation du monde, mais qui utilisent comme instrument une police chauffée à blanc, et dont, à qui on donne des instructions dans ce sens-là, hein, qui elle-même comment dire, est habitée par l'imaginaire du Rassemblement national, qui est un imaginaire tribal. Voilà. Et donc, et ça, ça donne l'énergie sociale pour que vous ayez les affrontements qu'on a aujourd'hui, dont malheureusement je crains beaucoup qu'ils deviennent de plus en plus violents dans les semaines ou les mois qui viennent, en particulier à la rentrée, une fois que tout le monde se sera reposé cet été. Et donc, alors ça, ça donne cet état tribal, dont une des versions, c'était ce qu'on a connu dans les années 30, en Allemagne, en Italie, au Japon, bon, et qui va pouvoir s'inventer aujourd'hui différemment. Vous avez plein d'éléments quand même aujourd'hui dans le rapport au droit qu'inaugure ce gouvernement actuellement, qui sont assez extraordinaires. Vous avez bien vu l'inscription dans le droit commun de l'état d'urgence, contre laquelle François Sureau, qu'on ne peut pas vraiment soupçonner d'être un gauchiste, s'est élevé avec la dernière énergie. Et puis maintenant, la possibilité d'avoir des ordonnances qui auraient force de loi sans passer par le Parlement. C'est très, très impressionnant. Donc ça, c'est la fin de la démocratie. Ça s'appelle comme ça, en français. Et donc, ça veut dire que c'est la tentation très, très forte, à mon avis, hein, de ce gouvernement, de se radicaliser lui aussi, pour aller jusqu'au bout de son agenda, qui est la privatisation du monde, en éliminant par la violence, une violence policière, toutes les résistances sociales qui vont être de plus en plus elles-mêmes fortes. Voilà. Oui, oui, allez-y, marche trop. Ouais.
Le micro. Le micro de Marc.
Patrick, il y a Marc qui veut dire quelque chose.
Oui, je suis en train d'essayer de l'activer.
Ah, d'accord.
Ouais, ah mince, c'était bon, ça s'est désactivé. Alors, on va y arriver.
C'est bon. Ça va être... Ma question ne concernait pas uniquement la France. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais quand on voit ce qui se passe dans un grand pays comme la Chine, l'alliance du pouvoir économique, politique et policier est massive.
Mais tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais voyez, alors il faudrait qu'on regarde ça plus attentivement. Mais en fait, la Chine n'a jamais connu le moment grégorien. Et donc, je ne suis pas sûr que la Chine, en profondeur, connaisse vraiment la dimension du public, du publicum, au sens de ce que Pierre Legendre essaie d'analyser. Et donc, elle est intrinsèquement tribale. Le confucianisme est une représentation tribale du monde dans laquelle l'unité tribale de base, c'est la famille. Et où le respect des ancêtres et des anciens est le ciment fondamental de la société. Et au fond, c'est pas clair du tout que le communisme ait changé grand-chose à ça, paradoxalement. Et donc Xi Jinping, aujourd'hui, construit une espèce d'état totalitaire policier, met 1 million d'Ouïghours dans les camps de rééducation dans le Xinjiang, profite du confinement pour fliquer la totalité de sa population, voilà, dans des conditions que la technologie aujourd'hui et l'intelligence artificielle rendent possible, qui était inimaginable il y a encore 10 ans. Mais au fond, c'est au service, moi je crois, hein, d'un projet politique qui est l'État tribal. C'est une des versions monstrueuses de l'État tribal. Mais en tout cas, ce n'est certainement pas du tout l'État romain. Et ce n'est pas non plus l'État grégorien. Je ne dis pas ça pour protéger l'Église. Hein. Ce n'est pas du tout l'État grégorien, ce n'est pas ça. Parce que c'est un État qui parle au nom de Dieu et qui dit le droit et la justice. Vous avez ça dans un très beau texte du 12e en allemand, Gott ist selber Recht, Dieu est le droit. Bon, Xi Jinping ne dira jamais ça, jamais, jamais. Voilà. Et donc, l'instance publique est absente en fait en Chine.
Il y avait la question de Karim, et puis
les communautés.
On va vous libérer après.
Oui, merci beaucoup pour cette question sur les communautés. Alors, en fait, ma réponse, et c'est pas du tout. Une astuce rhétorique, hein. Ma réponse, c'est la communauté, c'est elle s'auto-institue elle-même dans le geste même où elle désigne un commun. Et donc, il n'y a pas une communauté qui précéderait le commun, qui serait fondée sur autre chose, sur quoi il faudrait s'appuyer pour construire du commun. C'est dans le geste même où nous construisons ensemble du commun que nous nous auto-instituons comme communauté. Sinon, on est parti dans une régression où je vais devoir donner une identité essentielle. Vous voyez, une essence hypostasiée de la communauté, et ça, c'est hors de question. Ça, c'est précisément la dérive tribale. Le tribalisme commence là où on commence à croire qu'il y a une identité de la communauté qui prime, qui précède tout le reste. Si vous dites au fond, non, il faut tenir ensemble les trois sommets du triangle, vous avez la ressource symbolique ou matérielle, la communauté et les règles qu'elle se donne pour prendre soin de cette ressource, les trois sommets du triangle viennent ensemble. Sinon, aucun des trois ne vient. Voilà. Je dirais ça comme... Voilà. Alors après, bien sûr, le communautarisme qu'on voit ressurgir aujourd'hui, c'est justement une des manifestations, à mon avis, de cette pente sur laquelle nous sommes en train de glisser dans la souffrance, à cause de la souffrance sociale, vers le tribalisme comme refuge, en fait. Et l'individualisme crasse, c'est précisément la version, disons, la manifestation ou le symptôme de la privatisation du monde. L'individu roi qui a un rapport de propriétaire tout puissant au monde, qui confond le monde avec un vaste supermarché dans lequel je peux errer à volonté, acheter, jeter, parce que je suis le propriétaire potentiel de tout et qui n'a aucune limite. Voilà. Moi, je dirais que c'est ça, cet individualisme.
Bon, bah merci, on a un peu dépassé l'heure que vous nous aviez accordée, donc merci beaucoup.
Merci à vous, au contraire.
Merci, alors je vous applaudis au nom de notre...
Merci beaucoup.
Voilà. Les micros pour... Et puis, merci, c'était très intéressant vraiment de vous entendre et de pouvoir vous poser des questions. Dormez bien.
Merci.
Ouais. Merci.
Bonne soirée.
Merci. Bravo.
Merci Gaëlle.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Voilà. C'était pas mal. Ouais. Pour une fois, donc, même les questions étaient bien.
Ouais. Jean-Jacques.
C'était formidable. C'est vrai.
Les questions étaient bien. Non, Jean-Jacques, vraiment.
Bravo, Natacha.
Ouais, bravo, c'était formidable. Merci. Très bien.
C'était vraiment super. Hein.
Est-ce que vous allez lui demander son texte
Je crois qu'il n'a pas de texte. Hein.
Ouais, il parle comme ça. Il faut lui demander un texte. C'est formidable.
Ouais.
Hein.
Ah ouais, c'était formidable.
En plus, il a une position.